On vit tous une expérience client ou une customer experience sans le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience client ou cette customer experience dont tout le monde parle? Ou en tout cas, dont toutes les entreprises parlent? Elles veulent quoi au juste? Qu'on leur raconte comment se déroulent nos achats en ligne et en magasin? Ce qu'on ressent, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas? Eh ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Dire ce que l'on a pensé de notre expérience et de la façon dont la marque nous a accueillis ou recueillis une fois son panier abandonné, mais si rapidement retrouvé avec le même article toujours disponible, et même dans une autre couleur, et en plus avec 10% de réduction parce qu'on s'est inscrit à la newsletter. C'est formidable, et si je parraine quelqu'un, j'ai encore une réduc lors de mon prochain achat. C'est dingue, alors on parraine, on en parle autour de soi, on vit une expérience client fantastique, formidable. On recommande, on fait un buzz positif et on share, nos amis like, c'est viral. C'est ça, une joyeuse expérience client, une happy customer experience. Et c'est grâce à des solutions informatiques comme celle de SAP Customer Experience qu'on vit de formidables digital moments et qu'on arrive à choper, acheter et à satisfaire notre statut de cliente privilégiée. Car oui, nos avis comptent et plus que jamais, nous méritons tous de vivre une customer experience de qualité. Alors découvrez sans plus tarder les acteurs qui font de nos moments de shopping des moments privilégiés. L'équipe SAP Customer Experience nous livre ses secrets. Bonne écoute. Alors nous accueillons aujourd'hui Constance de Polignac, qui est Customer Experience Advisor chez SAP. Bonjour Constance et bienvenue. Alors Constance, est-ce que tu peux présenter ton rôle chez SAP? On a la chance de t'accueillir en plus sur une magnifique terrasse parisienne.
Merci beaucoup. Bonjour. Alors, les Customer Experience Advisors, nous sommes une petite équipe de personnes qui ont eu des responsabilités dans, côté opérationnel, des postes typiquement comme des rôles de CMO ou de CDO, donc Chief Marketing Officer ou Chief Digital Officer pour des entreprises. Dans mon cas, moi j'ai été CMO de Sephora, CMO et CDO de Camailleux, CMO et CDO des Galeries Lafayette. Alors, notre objectif et d'aider les entreprises à réussir la transformation consistant à réellement mettre le client au cœur de leur stratégie. C'est d'ailleurs aussi ce que nous nous efforçons de faire chez SAP, à savoir que la proposition de valeur d'SAP correspond exactement aux besoins identifiés pour le client.
Alors justement, le client est bien le point central de l'offre Customer Experience, n'est-ce pas ?
Exactement. Le client au cœur de la stratégie, l'expérience client comme obsession des organisations, ça paraît évident, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile à faire que cela en a l'air. Les entreprises ne sont pas réellement structurées en profondeur pour que chaque collaborateur travaille réellement et puisse délivrer cette fameuse obsession du client. Et c'est largement de ça, cette centricité client, dont nous allons parler aujourd'hui à travers différents angles de vue pour voir comment est-ce que nous sommes capables de délivrer cette fameuse expérience client.
Alors justement, avant de commencer, Constance, peut-être quelques instants sur la définition de ce qu'est l'expérience client.
Alors l'expérience client, c'est ce que ressent le client dans sa relation avec une entreprise. Cela peut sembler anodin, mais vous voyez aussitôt que c'est beaucoup plus riche et complexe que la simple adéquation d'un produit ou d'un service et même d'un prix avec un besoin. Ressent signifie qu'au-delà de la seule analyse rationnelle ou transactionnelle, qui est évidemment extrêmement importante, l'expérience client embarque la dimension critique de l'émotion. Autrement dit, un champ immense et bien complexe à appréhender. Alors, pour ceux d'entre vous qui en douteraient, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, 86% des clients estiment que l'expérience vécue est plus importante que le produit. 86%.
Alors c'est un pourcentage extrêmement important, Constance. En effet, est-ce que cela signifie que nous sommes beaucoup plus attachés à vivre une meilleure expérience omnicanale plutôt que de recevoir uniquement le produit que nous avons commandé? Autrement dit, je suis beaucoup plus sensible au fait de choisir la date, le lieu de ma livraison, le point relais, choisir le moment finalement auquel je vais être livré, plutôt que le produit lui-même.
Effectivement, c'est bien ça. En fait, lorsqu'un client va commander sur le digital ou vivre une expérience sur le digital, il s'attend à recevoir, à pouvoir interagir sur l'ensemble des paramètres qui représentent sa commande, à savoir non seulement évidemment le produit, savoir si le produit est disponible, quand est-ce qu'il sera reçu chez lui, par quel canal, il a besoin d'avoir l'ensemble de ces informations. Et c'est ces informations complémentaires
aux produits qui vont délivrer cette expérience client. Moi, j'aime bien prendre le parallèle de finalement, comment est-ce qu'en fait, sur le digital, on réussit à apporter cette émotion et cette interaction humaine que naturellement un client va avoir dans un magasin.
Alors, je crois qu'il y a un autre chiffre encore qui est encore plus intéressant. Je crois qu'on parle de 77%, c'est ça, de la proportion des organisations qui peuvent connecter ces informations, c'est ça, nécessaire.
Non, c'est pire que ça. C'est ça le problème des entreprises aujourd'hui, c'est que 77% des entreprises n'ont pas accès aux informations qui permettent de délivrer cette fameuse expérience client qui est demandée par le client.
C'est encore 77% pire, alors,
des entreprises essayent de connecter, mais ne réussissent pas à délivrer cette expérience client.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui ne peuvent pas développer cette expérience ?
Eh bien, clairement, le client le vit mal et le fait savoir. Un client qui vit une mauvaise expérience client va en moyenne le raconter à 10 personnes de son entourage, alors qu'un client qui va vivre une bonne expérience client va en moyenne le raconter à 3 personnes de son entourage. Vous imaginez bien quels sont les enjeux pour les entreprises de réussir à délivrer cette expérience client.
C'est fou. Ça veut dire que quand on est satisfait, finalement, c'est tout à fait normal. Donc on est très exigeant, mais quand ça se passe bien, on n'en parle pas trop.
Exactement.
Quand ça se passe mal, par contre, on ne fait qu'en parler, c'est ça ?
Exactement. Et c'est pour ça qu'il est vital de mesurer ce qu'on appelle l'expérience client, le NPS, donc le Net Promoter Score, qui se calcule entre le delta entre les promoteurs de la marque et de l'expérience et les détracteurs. Et c'est un indicateur qu'il est vital de piloter et de développer pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Donc, pour conclure, 4 chiffres importants pour moi. 86% des clients considèrent que l'expérience client est plus importante que le produit. 77% des organisations manquent de solutions pour délivrer cette expérience. Et 10 clients vont être contaminés par une mauvaise expérience vécue par un seul client, alors même qu'il n'y aura uniquement que 3 clients qui vont entendre parler d'une bonne expérience vécue par un client.
C'est terrible, hein ? Ces chiffres sont clés, finalement.
Ils permettent de poser l'enjeu de la transformation de la client centricity ou de la centricité client.
Et du coup, est-ce qu'on a des pistes de réflexion, des pistes de travail pour faire face à des enjeux aussi importants ?
Oui. Elles sont au nombre de 4 pour moi. La première, c'est l'expérience client qui doit se travailler dans le nouveau paradigme qu'est la mobilité. Aujourd'hui, les consommateurs ont accès à travers leur smartphone à toute l'information dont ils peuvent rêver. Ils sont donc devenus extrêmement exigeants, volatiles et impatients. Alors il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'aujourd'hui, à cause de cette nouvelle façon de voir le monde, lorsque les ascenseurs sont en maintenance, le bouton qui doit être changé le plus fréquemment, c'est le bouton fermeture des portes. Précédemment, c'était naturellement le bouton 0 qui était le bouton qui était le plus utilisé.
Mais ça veut dire que tout le monde veut tout de suite, quoi, finalement. On est devenu impatient, l'immédiateté, le smartphone, tout ça, ça fait qu'on veut tout de suite, sans attendre.
Cela veut dire que l'immédiateté est devenue la norme. Les entreprises doivent donc non seulement répondre de manière pertinente, mais en plus en temps réel. Et pour tout le monde, clients comme prospects. Elles doivent donc avoir accès en temps réel aux informations de ses clients, mais aussi à leur stock, aux créneaux de livraison, aux gestes commerciaux éventuels.
Alors il y a d'autres pistes aussi. On veut vraiment avoir une relation un peu statutaire, non ? On veut que la marque connaisse un peu tout de nous, mais sans trop en connaître. C'est bien ça ?
Tout à fait. En fait, la deuxième piste pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les clients ne se contentent plus d'une appréciation d'une marque. Ils aspirent à une relation individualisée. Et le défi aujourd'hui pour les CMO et les CDO est donc de passer d'une marque forte, désirable, à une marque capable de dialoguer à un niveau individuel avec un client. Et qui dit dialogue, dit tout d'abord comprendre qui est le client avec lequel on interagit. D'où le besoin d'avoir non seulement une vision unique et désilotée du client, mais surtout une vision complète du client. Pas uniquement les données transactionnelles, mais également les données relationnelles et émotionnelles que ce client a bien voulu nous communiquer à travers tous les points de contact,
call center, magasins, réseaux sociaux, sites web. Il faut comprendre le client dans sa globalité et dans son environnement pour créer cette relation et cette empathie.
Donc chaque client aujourd'hui a envie d'avoir une relation extrêmement individualisée en délivrant les informations qu'il souhaite. Sans être trop intrusive, la marque doit pouvoir avoir une relation privilégiée. On doit être traité avec les privilèges auxquels on s'attend, mais en même temps, quel enfer pour l'entreprise finalement d'avoir toutes ces données, ne pas aller trop loin, être suffisamment dans l'empathie. Et comment ça se passe tout ça alors ?
Alors c'est tout l'enjeu évidemment, c'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. C'est avoir la capacité non seulement de collecter donc les informations sur ce client, mais également de les contextualiser de manière pertinente, de savoir, comme tu le dis justement, de savoir où s'arrêter en termes de proposition, de savoir respecter la liberté et l'indépendance du client, de savoir lui proposer un produit qui va faire sens par rapport à là où il est situé géographiquement, qui prend en compte des paramètres qui sont également extérieurs au client, comme la météo, comme des événements à venir. Si par exemple je sais que le client habite dans le sud de la France, là où il fait 40 degrés, je ne vais pas lui proposer un pull. En revanche, je vais peut-être lui proposer ce pull si je vois qu'il a fait des recherches sur mon site internet sur par exemple pull grand froid, parce qu'il va peut-être faire un voyage et donc il a besoin de s'équiper. Donc c'est vraiment toutes ces compréhensions de ce que veut le client qui permet d'anticiper ses besoins et d'être pertinent et donc de délivrer cette fameuse expérience client à travers cette hyper-personnalisation.
Et du coup, ça donne du travail en back-office, j'imagine. Et c'est là où j'imagine que SAP va se positionner, ou du moins être un peu le facilitateur de l'ensemble de ces points de contact que la marque ou une enseigne doit avoir avec un client, c'est bien ça ?
Alors tu as raison, tu mets le point sur un enjeu extrêmement important, c'est comment est-ce qu'en fait on arrive à connecter des solutions qui permettent d'interagir avec le client, ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire j'interagis de manière directe avec le client, avec le back office, c'est-à-dire toutes les solutions de l'entreprise qui sont des solutions pour des départements qui ne sont pas en contact direct avec le client. Et c'est vraiment d'être capable de connecter le front avec le back qui permet de délivrer cette fameuse expérience. En fait, nous parlons d'une transformation globale d'entreprise qui est nécessaire, pas uniquement sur la direction du digital. C'est d'ailleurs souvent une erreur des entreprises qu'ils pensent qu'il suffit de transformer la direction du digital. C'est l'ensemble des directions qui doivent être transformées. On parlait tout à l'heure de la nécessité de mettre à disposition les stocks sur le site internet, de mettre à disposition les créneaux de livraison. Tout ça, c'est possible uniquement si on connecte le back-office avec le front-office.
Et ça permet de gagner en autonomie. J'imagine qu'une marque qui peut mettre en contact son back-office, son front-office, devient autonome dans la gestion de la relation client, c'est bien ça ?
Et ça lui permet de réagir et ça lui permet de pouvoir délivrer cette fameuse expérience client et surtout derrière de pouvoir continuer à dialoguer efficacement avec le client. Il y a un enjeu d'ajustement de la proposition de valeur permanente par une entreprise vis-à-vis de ce que va demander le client qui est clé. Si une entreprise est capable de délivrer rapidement une nouvelle proposition de valeur parce qu'elle a tous les systèmes qui sont interconnectés, donc elle va rester elle va rester dans la course à la satisfaction du client.
Oui, je comprends. Et en fait, il y a aussi tout ce qu'on appelle les priorités de langage et le langage commun aussi. Alors ça, j'en entends beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il faut créer finalement pour être dans cette hyper-personnalisation et comment est-ce qu'on s'y prend finalement ?
En fait, ce qui est très important, c'est comme je te l'ai dit, en fait, on parle vraiment d'une transformation globale d'entreprise où en fait, on va interagir avec l'ensemble des directions. Mais pour ce faire, il va falloir aligner des équipes qui n'ont pas un langage commun naturellement. Un logisticien, naturellement, ne parle pas des mêmes indicateurs clés pour un client que quelqu'un qui fait du marketing digital. Un informaticien ne parle pas naturellement le même langage ou travaille sur les mêmes indicateurs qu'un vendeur. Pour autant,
la réalité, c'est qu'il faut réussir à définir non seulement une vision commune, mais derrière une roadmap, donc une capacité à exécuter qui fasse sens et qui embarque tout le monde sur cette transformation.
Et ça, c'est la force de SAP ?
C'est la force d'SAP d'être capable non seulement d'avoir un écosystème de solutions, mais également de pouvoir accompagner le client sur comment réaliser de la valeur avec ces solutions. Et je pense qu'il y a une méthode qui est très efficace, qui est de se dire, ayons une vraie ambition, think big, commençons petit, start small, et agissons rapidement, avec vélocité, de manière à continuer à innover. Donc, think big, start small, act fast. Cette politique de petits pas mesurés permet de donner confiance aux équipes, de leur faire prendre conscience des succès et des progrès réalisés, et ainsi de donner envie d'aller beaucoup plus loin. Mesurer la création de valeur à chaque étape est absolument clé. Parce que c'est quand même extrêmement transformant tout ce dont on parle. On est littéralement en train d'inverser la façon dont on pense l'entreprise. On passe d'une entreprise qui est là pour mettre à disposition un produit qui se doit d'être innovant, désirable, à une entreprise qui met le client au cœur de toute sa stratégie, dans toutes ses directions, et qui va transformer non seulement les process, les solutions, mais également les façons d'agir des équipes, les indicateurs clés sur lesquels on va mesurer les équipes et la performance. Donc on est en train de transformer tout. C'est pour ça qu'on parle de révolution client, c'est réellement une révolution client. Et pour moi, il y a un élément qui est critique, c'est que la révolution client, comme je vous le dis, elle prend en compte énormément de paradigmes. Donc il faut évidemment s'outiller de solutions qui savent délivrer cette expérience client de manière à ne pas réinventer l'eau chaude et de pouvoir construire sur ces solutions qui sont évidemment nativement interconnectées entre elles pour se poser la question de quelle est la valeur que je veux créer avec ces solutions. L'enjeu, il est vraiment là. Il est sur cette création de valeur, sur cette capacité à l'exécuter rapidement et non pas à inventer la solution elle-même.
Très bien. Et j'imagine que vous le faites assez rapidement, avec efficacité. Grande maîtrise des coûts, parce que tout ça, ça doit coûter cher quand même.
C'est tout l'enjeu et c'est tout le savoir-faire, j'ai envie de dire, de SAP.
Et un petit mot pour la fin. Donc, on parle aussi beaucoup de temps réel, d'individualisation, d'interconnexion. Comment est-ce qu'on peut résumer tout ça ?
Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, ces points qu'on a évoqués sur le temps réel et l'hyperpersonnalisation, l'interconnexion, ce sont des sujets qui sont attribués au retail, puisqu'on dit voilà, le retail a besoin de rentrer en relation avec son client et de délivrer cette expérience qui doit être satisfaisante.
Alors pardon Constance, le retail, pour nos auditeurs, qu'on redéfinisse un petit peu ce segment.
Bien sûr. Le retail, c'est toutes les entreprises qui vendent un bien ou un service à un client consommateur individuel. Évidemment, ces entreprises sont celles qui ont été le plus disruptées par l'ère de la mobilité, par l'exigence d'émotions et d'expériences dont nous avons parlé. Mais en fait, un élément qui est très important, c'est que ces exigences d'hyper-personnalisation, de temps réel, elles arrivent aussi sur toutes les industries, pas seulement sur les industries qui sont en contact avec un individu final, mais également sur des entreprises qui vont traiter le B2B, c'est-à-dire des clients qui sont des organisations. Donc mon propos est de dire que cette exigence, elle est en train de balayer l'ensemble des secteurs et l'ensemble des entreprises vont devoir répondre à ces exigences.
Alors, on arrive au terme de ce podcast. Constance, un grand merci de nous avoir fait partager cette vision globale de l'expérience client et surtout de nous avoir donné un éclairage sur les enjeux, les priorités, les coulisses en quelque sorte de ce que représente l'expérience client. L'exigence et le sens de la valeur client, si on devait conclure, je crois qu'on peut dire que ces deux éléments sont au cœur de la stratégie de SAP, n'est-ce pas ?
Absolument. Ces deux éléments sont absolument au cœur de la stratégie de SAP.
Bien, merci Constance. Donc pour tous nos auditeurs qui souhaitent obtenir plus d'informations au sujet de l'offre Customer Experience de SAP, qui ont besoin de s'équiper et de répondre à l'immédiateté, à optimiser leur back-office, leur front-office, en tout cas faire en sorte que le client soient vraiment satisfaits. Alors je vous encourage à vous rendre sur le site sap.com pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Alors merci Constance et à bientôt pour un prochain podcast de SAP Customer Experience.
Merci beaucoup.